Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui peut encore enregistrer.
C'est vrai, c'est encore enregistré.
Parce que on a encore du matos et on va voir si on arrive à s'en sortir pendant
plus
un moment.
Plus pour longtemps, mais on va s'en sortir.
Voilà. Oui, parce qu'effectivement, le matériel qu'on utilise pour enregistrer m'est gentiment prêté. Il est possible que je n'y ai plus accès prochainement.
Le responsable des prêts de l'IUT d'Arles a la gentillesse de lui prêter du matériel, ce qui fait qu'il se signe des bons à lui-même.
Donc, comme je risque de ne bientôt plus pouvoir... Oui, merci, merci. Me prêter ce matériel-là, il va falloir qu'on fasse des courses. On a fait déjà un beau devis. Et... Ouh.
Donc tout ça pour dire bonjour à tous.
Bonjour.
Moi,
à
c'est
tous.
Isaac.
Ciao.
Et je suis Wanaï Pied et vous êtes au Wanaï Club. Et nous allons vous parler de plein de BD. Nous avons un programme un petit peu particulier parce qu'on avait accumulé beaucoup de BD en retard.
Non, en fait, on a un problème particulier parce que certaines personnes sont en vacances, d'autres ont eu un heureux événement, et donc du coup, on a un petit peu plus chargé les émissions parce que nous n'avons pas les intervenants habituels.
Bah, disons
qu'il y a encore un heureux événement. Hein. C'est pas toujours Thio qui fait des enfants à la chaîne tous les mois. Hein.
Voilà. Donc, on peut déjà féliciter Matt, qui est de nouveau papa et qui donc a pas vraiment beaucoup de temps à consacrer.
Comment
à
il s'appelle
manga. C'est Liane.
Bienvenue à lui.
Voilà. Et puis Merton, en fait, on a regardé que les news l'été, il se passait rien. En fait, il se passe vraiment rien l'été. Et que donc, on n'a pas grand chose de news.
L'édition, c'est comme le bâtiment. En été, ça s'arrête.
Voilà, c'est ça.
Mais WoW fonctionne bien.
Oui, WoW fonctionne bien, exactement. Il a eu beaucoup de news sur Karazhan et compagnie.
Karazhan, c'est tout week maintenant.
Nous avons un programme super chargé. On va faire beaucoup d'express. On va vous parler de 100 Bullets tome 16, Blouette State tome 2, Batman Saga numéro 2 et 3, de Jeux de gamins Cowboy et des Geeks tome 8. On enchaînera en parlant de ce qu'il y a dans les bacs, en parlant de Supplément d'âme, La peau de l'ours, Megabra, Ritter Germania, encore un bloc 109, et le dernier tome de la licorne, le 4. En splash page, autant vous dire que ça a été la galère pour réussir à se mettre d'accord, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses très, très bien dans tout ce dont on va vous parler dans les deux émissions à venir. Nous avons choisi de parler d'Héraclès.
Oui.
Et pour cela, plutôt que de faire un petit bonus avec un sketch pourri, comme nous en sommes si forts pour le faire d'habitude, nous avons décidé de nous donner 12 travaux à remplir pendant l'émission.
Donc, petit rappel, Héraclès, Hercule, 12 travaux, tout ça. Quoi.
Alors,
petit rappel, en théorie, c'est quand on manque d'idées, quand on essaie de profiler ça aux copains. Quoi.
Ouais.
Hein, j'avais pas d'idée pour faire un truc, alors du coup, ah tiens, j'ai trouvé, on va faire 12 travaux, les gars. Hein, les gars, que vous êtes d'accord pour ma splash page. Merci.
Et accessoirement, il a fallu qu'on trouve les 12 travaux aussi.
Oui. Donc, les 12 travaux, nous ne devons pas faire de jeu de mots sur les auteurs, sur le nom des auteurs, ce qui ne va pas forcément être facile.
Alors, une erreur de diction n'est pas un jeu de mots. Hein.
Oui. Un des travaux qui, en fait, va déjà être... va être difficile, il faut que tu aies lu un truc que je n'ai pas lu. Isaac, il faut que tu aies lu un truc que je n'ai pas lu.
Oui, oui. Oui, oui.
On va voir si tu vas y arriver. Il va falloir qu'on publie ce podcast dans les temps, sachant qu'on enregistre la veille de la mise en ligne. Autant vous dire que ça, voilà, c'est à moi que je me donne du boulot. Nous sommes chacun trouvé un mot très difficile à placer, que nous allons essayer de placer dans la conversation. Et franchement, nous sommes tous des enfoirés.
Ah non, 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 non. Isaac est plutôt cool, hein.
Ouais.
Ouais.
Ah, bah Isaac, lui, justement, vu qu'il est tellement cool, il va falloir qu'il arrive à lire une BD pendant l'enregistrement, sans qu'on s'en rende compte.
Alors, sans s'en rendre compte...
Nous, on va s'en rendre compte, mais vous, en tant qu'auditeur, faut pas que vous ayez l'impression qu'il est en train de lire. Ça va être pas forcément facile, mais il a choisi quelque chose qui devrait lui permettre de le faire. Il va falloir que je ne coupe pas la parole à Thio. Ça va être... Et qu'on s'en rende pas compte non plus.
Le plus simple, c'est que Thio ne parle pas.
Attention.
Comme ça, je réussis en plus le travail suivant.
Voilà. Il va falloir que mes comparses rient franchement à une de mes blagues.
Et ça, c'est pas gagné.
Ah, ah.
J'ai dit franchement.
Ha, 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 ça, c'était une blague. Ouais, je l'ai capté. Yeah.
Nous allons devoir éviter les monologues de plus de 3 minutes. Thio n'a aucune difficulté pour ça, mais Isaac et moi sommes vraiment...
Désolé.
Voilà. Il va falloir que nous arrivions à donner le prix et l'éditeur de chaque BD, sachant que nous ne l'avons pas préparé avant et que donc en direct live, il va falloir qu'on les retrouve. Et les DU, DA et machin chose et les codes prix ne valent pas.
Ce qui va forcément lui causer beaucoup de difficultés pour faire son montage ensuite.
Oui. Un de ceux qu'on a déjà réussi, il fallait qu'on ait toutes les BD, qu'on en ait oublié aucune. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait, en fait.
Très fort. On voilà. a été très fort.
Et ensuite, on va vous mettre à contribution. Il faut...
Vu le tas qu'il reste de BD, on a de la marge.
Oui, on a de la marge. Il va falloir qu'on arrive à provoquer 5 commentaires.
Donnez, t'as joué.
C'est le running gag. J'aurais dû mettre dans le travaux. J'aurais dû mettre dans le travaux, pas de base de données à jour.
Avast est très bien, mais Avast est un peu bruyant et un petit peu bavard.
Donc, nous allons devoir aussi réussir à provoquer 5 commentaires dans l'article de cet épisode de personnes différentes. Alors, nous, on va pouvoir en laisser des commentaires. Ça fait 3. Donc, il faut qu'on en ait 2 autres. Est-ce qu'on a des lecteurs fidèles? Il y en a toujours. Hein, les 2, c'est faisable.
Enfin, on a 2 lecteurs fidèles.
Voilà.
Moi, j'aurais dit auditeur, mais c'était oui, totalement deux personnel.
Ouais, lecteur, ce qu'il
faut qu'il point, comment il s'appelle déjà
le point... Et là où ça va être difficile, il va
on
falloir.
On arrive au 12e travaux, attention, c'est
cette
pas le plus
émission,
facile.
Il va falloir que cette émission va être soit Xavier Gilbert Proof.
Qui est Xavier Gilbert?
Xavier Gilbert est le rédacteur en chef de Duneuf, un superbe site, super intelligent, et qui nous écoute avec attention et qui régulièrement nous révèle toutes les conneries qu'on peut dire, et il y en a.
L'avantage, c'est qu'il fait ça qu'à pied, parce que nous, il ne nous connaît pas.
Voilà, et donc il va falloir qu'on arrive à faire une émission parfaite.
Joker?
Bon, on va démarrer là, c'est bon. On démarre aussi en vous disant que je vais couper les votes pour choisir ce qu'on va acheter avec vos sous. Enfin, les sous que vous nous avez fait gagner. C'est Freak Squills qui a gagné, mais bien quoi, haut la main. Il y avait la page blanche et Criminal qui était pas loin derrière. Donc, on va se lancer dans Freak Squills. Hein. Oh, ça avait l'air vraiment bien. Donc, tant mieux.
Mes élèves sont fans.
Ah, ça te fait peur ça.
Non.
Oh. Et on peut démarrer de suite cette émission de rentrée avec notre Express, les bandes dessinées. Alors, pour ceux qui nous découvrent, on va dire que c'est Express, c'est la rubrique où on parle rapidement de bandes dessinées à suivre ou qui n'ont pas apporté grand-chose de neuf ou vite lu. Et c'est parti.
La suite des suites.
Express 100 Bullets, tome 16. Par
Brian Azzarello et Eduardo Risso. Le grand nettoyage.
Avec une magnifique couverture.
Comme de bas.
Qui donne très 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 envie de se mettre au rose.
Chez Urban Comics.
Pour la modique somme de...
Donc, sortez-vous les ordinateurs.
Pour la modique somme de... 128 donc, pages.
Que nous raconte ce tome 16? En gros, tout continue à se mettre en place, mais bien.
Là, on est plus que tendu en place. Les Minutemen commencent à peu près à dézinguer à tout va, quoi.
Voilà, oui, ça commence à dézinguer à tout va.
Ça commence à dézinguer à tout va, et là, on commence vraiment à se poser des questions sur qu'est-ce que veut vraiment faire un certain agent Graves.
Oui, on sent qu'on arrive à la fin de la série, que bientôt, là, c'est mort, quoi. Il va falloir que ça soit une bonne fin, j'espère, en tout cas. Il reste deux épisodes hein, en VF avant que ce soit fini. Donc, c'est plutôt...
Ah ouais, il y a déjà les couves derrière.
Ouais, il y a déjà les couves derrière. Bah ouais, c'est tellement fini depuis longtemps aux États-Unis qu'ils peuvent se le permettre. Donc, que dire rapidement donc sur le scénario, Thio, qu'est-ce que tu en as pensé ce coup-ci? Tu te disais sur le précédent, tu trouvais que bon.
Ben, je trouve que voilà, là c'est bien. C'est bien parce que celle-là, ça a commencé vraiment à partir. Il y a des petits moments quand même qui sont à la limite du politiquement correct.
Ouais.
Alors c'est vrai que je trouve que voilà, pour les, enfin, dans tous les meurtres, on est toujours resté politiquement correct dans 100 Bullets, mais là, là, ils ont quand même franchi la ligne.
Ils ont franchi la ligne, oui, ça commence à être... Il y a les enfants, voilà, ils commencent à toucher la famille, là. Et là, il y a des moments où tu fais... tu tournes la page, tu fais « je veux pas tourner la page ».
Là, tu dis « non, il va pas faire ça, c'est... non, quand même ».
Ah,
quand...
c'est pire.
Ah bon, voilà.
Donc, une très très bonne bande dessinée à suivre. Je pense qu'on se fera peut-être une splash page pour le dernier tome parce que ça le mérite.
Oui, on sera refait les 18 précédents.
Ouais, les 18 précédents. Donc, Unread Bullets tome 16, Le Grand Nettoyage, chez Urban Comics, au prix de 14 euros. Blue Estate.
Il a chopé le prix sur Internet, il est trop fort.
Merci Amazon. Blue Estate, tome 2, chez Ankama. Une bande dessinée de Victor Kalvachev, dessinée par plein de gens. Donne-nous le nom de tous les gens. Kyo, qui a le livre en main. Parce qu'ils sont très nombreux.
David Hasselhoff. Ah non,
non, c'est pas David Hasselhoff.
À suivre ? Non, c'est pas ça non plus.
Donc, Blue Estate est une bande dessinée américaine menée par Victor Kalvachev qui fait les couvertures. On avait déjà chroniqué le tome 1, qu'on avait trouvé assez sympathique. Sur Amazon, ils disent que c'est collectif, les auteurs. Ça nous aide.
Ouais, mais c'est collectif. Ouais. J'y suis, là, je suis à fond. Hop,
dessin, Victor Kalvachev, Toby Cypress, Paul Mayberry, Nathan Fox, Marley Zarkon. Et c'est tout.
Et c'est tout. Victor Kalvachev fait que les couvertures et gère le scénario un peu comme un...
L'histoire originale est de Victor Kalvachev, mais le scénario est de Andrew Osborne.
Voilà. Il travaille un peu comme sur une série télé. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui gère la série, et puis il y a d'autres scénaristes qui passent derrière. Que dire ? C'est toujours du bon gros polar, un peu débile, qui va chercher un peu du côté du Pulp Fiction... et de toutes ces séries de mafieux et un peu lourdingues, un peu nuls, qui font tous conneries les unes sur les autres. On a un pseudo Steven Seagal dedans.
Bruce
Maddox, qui est une star du cinéma d'action.
Ancienne star du film.
Ancienne star du film d'action, qui maintenant gère avec la mafia. Il y a des imbroglios dans tous les sens, parce que bien sûr, il y a des coïncidences non-stop. C'est fun, c'est bien écrit. Mais disons que bon, ça apporte pas grand-chose par rapport au tome 1, par rapport à ce qu'on avait déjà dit.
Ça commence à être à se pimenter, dans le sens où Rachel, les actions de la femme de Bruce Maddox, justement, Rachel...
Oui, qui en gros est pas trop contente d'être avec son mari.
Commence à, je pense, justement, créer la petite tension qui devrait être bien présente dans le tome 3.
Voilà, on verra.
Qui est sorti et qu'il faut que je...
D'accord, on verra si le tome 3... Est-ce que je me disais que les sorties étaient un peu écartées? C'est juste que...
C'est juste que j'ai un peu de mal à suivre.
T'as du mal à suivre. Parce que c'est vrai que moi, ce que je trouve, c'est que les tomes sont un peu courts, en fait. Ankama doit mettre trois numéros dans un album.
Ouais.
Ça fait un peu light, on est habitué à avoir un peu... Quand la narration et la lecture est aussi, je dirais, rapide, ce rythme très américain, ça fait un petit peu light comme album. En tout cas, si vous voulez savoir ce que David Hasselhoff ferait dans certaines situations, c'est à lire. Franchement, c'est une des questions qui se posent. Et les couvertures de Victor Kalvachev sont vraiment superbes. Les dessins dedans sont très sympathiques, très péchus. Ça en jette bien. Il y a plusieurs dessinateurs, mais ça se voit pas trop, en fait. Il y a un même ton. J'ai passé un bon moment à le lire, mais ça se lit très, très, très vite. Donc, Blue Estate, tome 2, chez Ankama, dans la collection Hostile Oster, au prix de 11 euros. Je vais avoir des applaudissements à chaque fois.
Ah bah oui.
Ouais, là, j'ai pas fait.
Batman Saga. Alors là, on a du retard, parce que vu que Batman Saga est mensuel et qu'on est à la bourre, le 4 est déjà sorti, pour vous dire qu'on est... Donc, il y a le tome 2 et le 3 qui sont sortis. La revue de chez Urban Comics contient toujours 4 séries, donc un épisode de chaque série dedans. Qui sont Batman et Robin, Detective Comics,
Batman et Robin et Batgirl.
Qu'en dire ? Bon, déjà, le Batman de dessiné par Greg Capullo et scénarisé par zut, ça y est, j'ai un trou de mémoire.
Scott Snyder.
T'en as pensé quoi, Thio ?
Bien, excellent, je me suis régalé. Mais par contre, juste un tout petit truc, le souci du Batman Saga où tu as 4 histoires, c'est que les histoires sont vachement courtes du coup dans chaque édition.
On est vraiment dans le rythme. Moi je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve le rythme de publication à l'américaine. T'as vraiment ce côté à suivre qu'on perdait un peu à avoir toujours des gros recueils.
Mais j'aime pas.
Et je suis un peu d'accord avec Thio, c'est-à-dire que quand on commence à être repris dans le bain de l'histoire, déjà, il faut qu'on se remette un petit peu dans le bain de l'histoire précédente. Une fois qu'on est dedans, eh ben, pouf, on change et on passe à l'histoire d'après. Et franchement, c'est très, très, très frustrant. Et c'est quatre fois frustrant pour chacune des quatre histoires, parce qu'elles sont toutes excellentes. Et la frustration reste la même à chaque fois.
Imagine que... Bon, alors, il faut savoir que Urban Comics a déjà sorti le recueil de toute la saga La Cour des Hiboux, donc de Scott Snyder et Greg Capullo, ils l'ont sorti déjà. Donc si vraiment tu craques, tu peux foncer dessus, mais bon, là on va les avoir dans les Batman saga, quoi.
Mais ce qui est bien par contre, c'est les petits dossiers.
Oui.
Entre chaque histoire. Là du coup, c'est pratique parce que du coup, là c'était l'histoire de Gotham avec ben, plusieurs parties. Pour l'instant, on en est à la deuxième.
Ouais, le travail éditorial est vraiment très sympa. En plus,
ça apporte surtout un vrai plus.
Tu te souviens de ce que j'avais dit de la mise en page
qu'au début elle était nulle.
Ouais, tu sais qu'elle était faite avec les pieds dans le cul.
C'est bon, ça.
Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas.
Ils t'ont écouté.
Voilà. Donc
quelle influence.
Moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'au niveau, il y a Bruce Wayne qui reprend un peu de place dans la BD, quoi. On voit que Bruce Wayne, bah, c'est pas juste une couverture, mais qui fait des choses pour essayer d'aider la ville, ce qui est intéressant. Le Batman et Robin est génial parce que alors le Damien Wayne est super bien utilisé. J'adore ce personnage. Je suis fan de Damien Wayne.
Mais c'est vrai que c'est un personnage qui a de la profondeur et qui peut faire tout et n'importe quoi et à qui il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc ça donne quand même une liberté de ton pour le scénario qui est très intéressante. Et puis qui change un peu du politiquement correct du Batman qui se bat mais qui surtout fait pas trop de mal, on sait jamais. Voilà. Donc il a une place très intéressante et la relation du coup avec Batman l'est tout autant.
Et j'étais un peu plus déçu par le Détective Comics de Tony Daniel. Avec le gars qui arrache la peau pour faire des...
Le taxidermiste. Oui, en fait, c'est juste que ça n'a pas beaucoup avancé sur le tome 3. Sur le tome 2, on met en place le taxidermiste, mais sur le tome 3, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup avancé.
Donc je trouve que ça manque...
C'est surtout ce que je trouve, ça fait un peu un méchant old school, quoi.
Oui.
Ouais, il commençait à avoir des méchants un peu intéressants, et là, on revient aux méchants... Il a enfin son truc, voilà, lui c'est la peau, l'épouvantail c'est ses poisons, enfin. Bof.
Et le Batgirl, alors j'ai un peu du mal sur le côté dialogué, je trouve que ça fait un peu vraiment old school sur la façon dont c'est raconté.
Bah justement, moi j'aime bien le côté voix off.
Par contre, ouais, il se joue sur la relation entre Nightwing et Batgirl, qui est un passage très intéressant dessus. Le magazine est vraiment de qualité, en tout cas. Les dessins, on va passer très vite. Globalement, c'est bien. Ça oscille entre bien et très bon.
Sur les quatre, moi, je dirais que ça oscille entre très bon et très bon.
Voilà. Donc, franchement, si vous aimez Batman, ça vaut le coup. C'est donc mensuel chez Urban Comics et ça coûte 5,60€ pour les quatre titres. Jeu de gamin, les cow-boys. Nous avions interviewé, j'avais interviewé,
tu avais interviewé
Michael Roux avec son coloriste à Angoulême. Nous avions bien aimé le jeu de gamin, le premier qui était sur les pirates, mais c'est parce qu'on aime les pirates. Et donc le deuxième tome vient de sortir et traite des cow-boys.
Hein, Isaac, c'était un pirate pourri ça. Hein.
Absolument.
En gros, on suit les enfants qui s'imaginent vivre des histoires de cow-boys et on voit un petit peu tout ce qu'ils
Max,
font.
Max, Théo et Léo.
Et on voit un petit peu tout ce qu'ils font de leur côté. Au niveau graphique, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus fait à l'arrache que le précédent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est dessiné plus vite. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me suis donné cette idée-là.
J'ai trouvé que c'était moins... Moi, je trouvais ça mignon quand même. Voilà, y a pas... enfin, je n'ai pas d'avis négatif sur le dessin.
Et au niveau du scénario...
Attendrissant.
Ouais, c'est mignon, c'est sympa. Pareil, c'est de la BD à gags, donc on accroche ou pas à certains gags, mais moi je trouve que pour de la BD jeunesse, c'est vraiment très agréable à lire, c'est très bien foutu. C'est à mettre entre toutes les mains d'enfants. Et pour les adultes, bah, c'est rigolo, ça rappelle quand on jouait avec trois bouts de bois à faire tout et n'importe quoi. Jeu de gamin, les cow-boys, c'est chez Bambou et ça coûte 10,60€. Ça vous allez encore applaudir? Les geeks, le tome 8.
Le tome de la maturité.
Ouais, on peut dire ça. Ils ont eu la très bonne idée d'essayer de faire avancer l'intrigue, ce qui est rare dans une BD à gag, en faisant que bah, la copine du héros est enceinte et on voit tout ce qui passe dans la tête du héros qui s'imagine ce que ça va être que d'être papa quand on est geek, quoi. Moi je vois un peu, il y a beaucoup de... Alors voilà, toutes nos femmes qui l'ont lu ont aimé car apparemment elles nous ont un peu reconnues.
Voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une forme de mimétisme assez fort entre deux jeunes papas qui sont autour de moi et leur vie actuelle avec leurs femmes respectives. Donc il y avait une forme presque de biographie là-dedans.
En tout cas, le tome est bien foutu. On retrouve les gags en une planche, les strips qu'ils avaient mis en place dans le tome précédent, je crois, ou celui d'avant même. Et puis surtout, quelque chose qui m'a énormément surpris. Un cliffhanger dans une BD à gag. Et ça surprend pas mal. Je m'y attendais pas. Théo ?
Je m'en rappelle pas.
Ça, ouh, ça t'a marqué, ouais. Sérieux ? Tu te souviens pas du cliffhanger ?
Non, je sais pas du tout.
Tous les personnages qui regardent dans la rue, ils font « Oh !» et puis ça s'arrête là.
Ils sont pas dans la rue, ils sont à l'hôpital.
Oui, ils sont à l'hôpital, qui regardent et qui font « Oh !» D'accord.
Bref, le bébé doit avoir une tête particulière. Alors, soit il ressemble, soit il est. Peut-être qu'il a un t-shirt déjà marqué geek, peut-être qu'il est en jaune, rouge, bleu et avec une oreille verte.
Peut-être qu'il a un body Pikachu.
C'est ça, ou alors il est déguisé en n'importe quel animal du Pléistocène, un truc vieux, quoi.
Donc, nous verrons cela. Un mot placé. On verra ça dans le tome 9 pour voir ce que ça donne. En tout cas, toujours plaisant, toujours un dessin très dynamique, très péchu, qui s'améliore même, bourré de petits détails dans tous les sens. Moi, j'aime bien les geeks.
Mais j'ai trouvé que dans le dessin, c'est plus détaillé. J'ai l'impression qu'il y avait plus de détails en fait dans les planches que dans les précédents.
Ouais. Pourtant, il y en avait un paquet, toujours des détails. Hein.
Bah, écoute, là, peut-être que j'ai été plus pertinent dans ma lecture. Peut-être.
Est-ce que tu as compris la logique des titres d'épisodes ?
Non.
Alors, il y a toujours une logique plus ou moins bizarre, et là, j'avoue que...
Oui, mais en même temps, ils nous avaient déjà dit qu'ils allaient commencer à avoir du mal à en trouver.
Oui.
Donc là, j'avoue que j'ai pas compris.
Voilà, ben, on verra. Il faut qu'on fasse des recherches. Je pense que c'est... Oui, c'est bourré de gags bien, bien, bien durs à comprendre, en fait. Bien planqués.
Ah, il a trouvé, lui.
Enfin, c'est quoi votre problème sur
les numéros, là.
Ben, c'est le numéro des planches.
Pas que.
Parce que ça doit vouloir dire un truc. Ça veut toujours dire un truc.
Bon, on verra ça plus tard. Ça y est, on lui a mis le... Cherche la logique.
Je reviendrai dessus.
Dans les bacs. Supplément d'âme.
Chez Futuropolis de Alain Cocor. Alors, Supplément d'âme donc, nous raconte l'histoire d'un citadin qui, en fait, un boulot de fonctionnaire. Et un jour, il a posé une question sur Internet qui a changé le monde. Grâce à lui, il a apporté la paix et le bonheur.
Juste en posant une question sur
un
forum.
Mais personne ne sait que c'est lui.
Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la discrétion, qui est dans le flux du monde, dans les personnes. Et ce mec-là, par sa simple présence, il arrive à provoquer des choses. C'est une sorte de déclencheur. Par exemple, il va manger tous les jours à la même heure, au même endroit.
Au même endroit.
Dans un endroit qui, normalement, est interdit aux gens. Et apparemment, tous les gens qui ont vu sur cet endroit-là s'intéressent à ce rituel. Puis un jour, il n'y vient pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ?
Parce qu'en fait, tout le monde parie aussi sur l'heure à laquelle il arrive et l'heure à laquelle il part.
Et donc, on suit une galerie de personnages très variés. Une artiste, un directeur de marketing pour une boîte qui n'a pas besoin de directeur de marketing.
Non, de service après-vente.
Oui, service après-vente pour une boîte qui n'a pas besoin de service après-vente. Voilà.
Et je peux vous dire que tout le long, quand même, on cherche. On se dit, mais quel produit n'a pas besoin de service après-vente ?
Et quand on le sait, on fait, ah bah oui, c'est l'évidence. C'est... Franchement, une très très jolie bande dessinée. Parlons du scénario. Alors déjà, on est classé comme genre, c'est de la poésie urbaine. Et ouais. C'est vrai que le mot qui vient en parlant du scénario, c'est beau, quoi. C'est simple, c'est quelque chose d'assez facile. On rentre dedans, mais ouf, on se laisse emporter.
Bah, c'est vraiment très très fluide dans la narration, mais en même temps assez décalé, parce que tu as les événements qui se produisent, on va dire, presque par hasard. L'enchaînement va produire en fait un effet qui va être beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu compter au départ.
Et puis on se pose des questions sur cet homme justement qui est le déclencheur de tout ça. Et puis en fait on se rend compte que la réponse n'est pas très importante.
Il peut être n'importe qui.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en gros n'importe qui peut changer beaucoup de choses dans la vie de n'importe qui. Voilà, il y a une réelle poésie dans cette bande dessinée qui est bien prenante, très belle. Et puis, avec aussi un petit humour, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la poésie grandiloquente qui essaie de se la péter. Là, c'est vraiment quelque chose de doux, de beau, de super sympathique. Tu valides ?
Ouais, je valide, c'est un très très bon bouquin.
Concernant le dessin.
Voilà.
Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire.
Alors le dessin est dans des teintes un peu sépia, on a l'impression que c'est du crayonné, colorisé, je ne sais comment. Ouais, enfin, je pense que c'est peut-être de l'informatique, tu vois, là pour le coup.
Il y a un effet aquarelle qui est donné.
Voilà, un dessin qui est très simple, qui joue beaucoup sur les symboles, et surtout une narration, c'est-à-dire qu'il va vraiment travailler ses mises en page sur des gaufriers.
Ça m'a beaucoup fait penser à du Will Eisner, en fait, sur la narration. Sur la manière, sur le découpage, sur la manière de cadrer les gens, la ville.
Avec du contour de case. Avec du contour de case.
Ou pas.
Les cadrages sont superbes, les symboliques. Apparemment, ce personnage disparaît tout le temps pour essayer de trouver une porte. Il a un timing super précis, le personnage mystérieux. Et puis, les personnages sont tous attachants, quoi. Il n'y a pas de méchant dans cette bande dessinée.
Bien que, à un moment, on croit qu'il y en a.
Il y a des tests graphiques aussi, parce qu'un des personnages illustre un comics, et on voit le dessin, il y a des crayonnés au milieu. C'est un objet vraiment étrange et très prenant. Moi, je me suis retrouvé, waouh, embarqué dedans.
Une invitation au voyage, moi, j'aurais dit. Isaac ?
Oui, ben c'est une forme de douceur en fait quand on feuillette le bouquin au niveau de la façon dont c'est dessiné, du choix des couleurs. C'est reposant et fait un petit peu réfléchir.
Voilà. Moi j'ai bien aimé le travail sur justement cette mise en page, ce que tu disais, le côté Will Eisner. Il y a des passages où d'un coup on n'a plus de cases, on est vraiment dans l'évasion. Il y a des passages où il y a un gaufrier très précis, plus ou moins resserré. Parfois, il se permet de repartir, d'exploser les choses, tout en ayant une certaine rigueur quand même. C'est un sacré boulot. Je suis un peu tombé amoureux de cet auteur que je ne connaissais pas du tout. Donc, Supplément d'âme par Cocor chez Futuropolis au prix de 19 euros.
Et on passe donc à La peau de l'ours.
Oui.
De chez Dargo par Auriol et Zidrou.
Ah, Zidrou.
Pourquoi à Zidrou ?
Ben, c'est un scénariste que j'aime beaucoup parce qu'il est capable de faire des choses très, très, très variées. Par exemple, L'élève du cobu.
Ok. Ah,
voilà. Ça, c'était écrit dans la petite feuille magique de Service Presse.
Qui explique tout. Donc,
qui n'y est plus.
Qui n'y est plus. Qui m'a volé ma feuille de Service Presse ?
Elle doit être là-bas.
Et...
Ah,
elle y est encore. Donc, L'élève du cobu, mais il a aussi fait Lydie, qu'on avait beaucoup aimé.
Au prix de 14,99€, je le cite tout de suite.
Et en France.
22,50€ en France suisse.
Merci. Franchement, là, on se la pète. Hein. Donc, La peau de l'ours, mais qu'est-ce que c'est que ça raconte, mon cher.
On va suivre, en fait, l'histoire d'Amadeo qui, tous les jours, en fait, part du village à bicyclette.
Putain, on aurait dû mettre dans les travaux que.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
C'est bon.
Voilà. Donc, et donc
quand on aurait dû mettre dans les travaux une chanson d'Isaac.
Et donc, voilà. Quand il se balade avec son vélo, il croise à chaque fois la fille du garagiste qui a une grosse chaleur sous le capot.
Ouais. Grosse chaleur sous le
grosse
capot.
Grosse chaleur. Ça pourrait faire un titre de film de boule, ça.
Ou un titre d'émission. Allez, c'est parti. Grosse chaleur sous le capot.
Grosse chaleur sous le capot. Et donc, du coup, c'est Sylvana et elle essaie à chaque fois donc, bah, d'attirer Amadeo, quoi. Et Amadeo, en fait, joue le rôle de lecteur pour Don Palermo. Donc, Don Palermo, qui, comme son nom l'indique, est forcément un mafieux.
Ouais, dès qu'on a un nom qui commence par Don, qui finit voilà. par O.
Et donc, bah, Don Palermo va, bah, en fait, un jour, commence à raconter son histoire, justement, à Amadeo. Et on va découvrir pourquoi la peau de l'ours, c'est le titre aussi de l'histoire. Et aussi, pourquoi est-ce que Don Palermo a besoin d'un lecteur.
Dans le genre, nous avons dit que c'était de la bio-mafieuse. Très très jolie bio-mafieuse, très très prenante. Parlons du dessin, tiens.
Moi j'avais noté que c'était fait à la belle serpette. C'est-à-dire qu'on a un dessin qui a des lignes pour les découpes de personnages au niveau des visages. On a des lignes franches, très droites, etc. Les nez sont très marqués, les mentons sont très marqués, etc. Ça rajoute justement à ce côté mafieux où on a une mâchoire carrée. Les choses sont très, très droites, très carrées, encore une fois. Mais, c'est bien fait. C'est pas de la facilité, parce qu'il y a des moments où on sort un tout petit peu de ce style-là pour certains personnages, mais c'est, voilà, ça rend vraiment service au scénario. Ça permet aussi un travail sur les ombres. C'est un petit peu en architecture, on va dire, quand on a des arêtes bien, bien précises, on crée des zones bien éclairées, des zones d'ombre, et là, vraiment, la couleur s'en est servie. Donc un très 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 joli dessin qui sert très très bien un très joli scénario.
Il y a un dessin que je trouve, le crayonné est très visible dans le dessin, et à côté, pour les personnages qui sont très stylisés, il y a un jeu sur les couleurs aussi, des personnages très rouges, pour bien faire ressentir les émotions. Et à côté de ça, il y a des fonds, on a l'impression que c'est de la peinture à l'huile, les décors, on a l'impression que c'est un beau décor à la peinture à l'huile.
Le côté peinture américaine des années 50.
Voilà, bien mené, enfin... Moi, le style m'a bien plu, ces personnages un petit peu caricaturaux, avec des nez très longs, des bouilles vraiment bien reconnaissables.
Des grandes oreilles.
Des grandes oreilles, oui.
Le teint toujours un peu rougeau.
Avec une narration au niveau des cases très classiques, mais un travail sur la prise de vue, sur l'angle de prise de vue, qui est assez recherché, qui est bien travaillé.
Avec parfois aussi, on a quelques pages pleines d'un seul grand et même dessin. Il y a un vrai travail, bien, bien recherché. C'est une belle dynamique aussi sur l'ensemble de l'histoire, parce que ça pourrait être trop lent et on pourrait s'embourber rapidement, parce que ce sont les souvenirs de Don Palermo qui sont racontés à Amadeo.
Tu veux parler vite fait du dessin ? Ça a quelque chose à rajouter ? On revient sur le scénar après.
Je suis assez fier de ce que vous avez dit, les gars. Vous avez bien bossé. Sympa.
Merci. Merci, c'est très sympa.
Merci, papa.
Le scénario. Bah tiens, Thio, t'as le micro. Parle-nous du scénario.
Sopranesque. C'était mon mot facile, mais en même temps, tellement fidèle, quoi. C'est le vieux mafieux qui est en train de raconter toute l'histoire de sa vie à un petit jeune. Et puis, on voit que l'histoire qu'il raconte... la fin va venir, quoi. Il l'annonce dès le début et dit qu'il attend la fin.
Voilà. Oui.
Et tout le long de l'histoire, on attend cette fin et... Ouais, sympa.
Moi, j'ai mis récit emboîté parce que justement, il y a une sorte d'emboîtement entre ce que raconte Don Palermo et ce qui se passe pour le jeune, en fait. On voit ces influences qu'il peut y avoir entre... ces histoires du passé et le présent, et puis des personnages qui sont très très durs aussi dans le passé. On voit qu'il fallait vraiment être un enfoiré pour réussir à être un bon mafieux. Et puis une belle histoire d'amour aussi.
Deux
belles histoires d'amour. Là, on est en train de faire un blanc. Isaac, vas-y, tu es le spécialiste pour couper les blancs.
Ah, bicyclette.
Non, c'est pas Isaac.
Non. Ah, c'est pas Isaac. La peau de l'ours, vraiment un bon bouquin.
Allez,
bonne histoire.
Un petit reproche que j'aurais fait à l'éditeur. Vas-y. Ils ont collé un autocollant coup de cœur sur l'album. Ils ont de la chance, la plupart des libraires l'ont laissé parce qu'effectivement, c'est une très bonne BD. Mais par rapport aux bandes dessinées des autres auteurs qui publient, à qui ils mettent pas le petit autocollant coup de cœur, je sais pas comment ils doivent le prendre en fait.
C'est comme dans toute production. Mmh. Il y a du bon, il y a du moins bon.
Ouais, ça c'était une phrase.
Mais
c'était aussi profond qu'en rhododendron, ça.
C'est ça.
Deuxième mot.
Le conte est bon. Ah ben non, il en manque encore un. Alors, Onaï, un petit souci pour placer ton petit mot ?
Non, je vais y arriver. Je vais y arriver.
Et maintenant, nous passons à Megabra de Bouzard chez Fluide Glacial.
Et tout est dans le titre.
Megabra, c'est l'histoire de Guillaume Bouzard.
À 14 euros.
Qui se met en scène lui-même. Guillaume Bouzard, en gros, d'un coup, il s'énerve et il a son bras qui devient super gros et qui lui permet d'exploser la gueule des gens. Et il se dit, putain, faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Et donc, il décide de devenir un super-héros. Alors, il prévient son meilleur pote, David, qui va l'aider à devenir un super-héros. Et il finit par rentrer dans une agence de super-héros qui embauche plein de gens. Puis on se rend compte qu'en fait, tous les super-héros ont un problème que Garth Ennis n'aurait pas renié dans The Boys. Oh oui. C'est qu'ils ont tous un problème d'ordre sexuel. Ça vient avec les super-pouvoirs et chacun doit essayer d'apprendre à vivre avec. En général, c'est quelque chose qui est laissé dans l'oubli. Mais il faut vivre avec. Et Guillaume, lui, il commence à avoir une certaine attirance pour les sous-vêtements de la mère de David, son meilleur pote. Et c'est, et c'est très très drôle. Au niveau du dessin, nous sommes dans du Guillaume Bouzard, donc c'est très très simple. C'est un dessin très stylisé, très gros nez, très fluide glacial.
Très fluide glacial, exactement. Oui, ça, c'est le mot que j'ai mis, très fluide glacial.
On est vraiment dans l'esprit fluide. C'était des histoires courtes, hein. C'est un recueil d'histoires courtes qui était publié dans le magazine, donc ça se ressent à la lecture, mais on reviendra dessus en parlant du scénar. C'est en couleur, parce que fluide est en couleur depuis quelques années maintenant. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté, donc je crois que je n'ai pas un seul en couleur. Et de temps en temps, il y a quelques fulgurances graphiques, c'est-à-dire qu'il y a certains dessins super péchus où il se montre, déjà que la couverture en soi est géniale, il y a certains dessins super péchus qui en jettent, quoi, où on sent que waouh, il y a de la patate derrière. Mais sinon, ça reste très très simple. Quelque chose à rajouter ?
Peut-être trop simple.
Ouais, peut-être un peu trop.
C'est après, bon, peut-être il y a aussi le scénar qui me donne cette impression-là. Au niveau du scénario, moi j'ai trouvé que c'était un peu, le mot juste, moi j'ai trouvé ici poussif.
Oui.
Dans le sens où l'idée de départ est sympa. Le traitement, bon, au début, et des fois ça m'a plu, des fois bon, bof. Mais sur la longueur, bof, très très gros bof. Et voilà, et la fin ne m'a pas du tout fait sourire, quoi.
Bah, je me demande si c'est quelque chose qui clairement méritait une publication en album et si en histoire à suivre dans un magazine, c'était pas le format idéal. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de saturation quand on arrive vers la fin. C'est vraiment le truc à lire par petits bouts, je pense.
Une lecture de petite toilette.
Voilà. C'est une lecture de petite toilette. Moi, j'ai trouvé que ça restait très sympathique. J'ai quand même pas mal rigolé à de nombreuses reprises. Donc,
Il y en a qui m'ont oui, mais j'ai beaucoup plus ri au début que finalement à la fin.
Ouais, bah, au début, il y a ce côté je vais essayer d'être un super-héros, et puis ensuite on part dans un complot. Il y a une sorte de. Puis en plus, il y a des redites. Ils essayent de virer Guillaume Bouzard de l'agence, et il y a plusieurs histoires qui racontent comment ils essayent, et c'est toujours le même genre de quiproquo. Qui sont sympas à lire avec un peu de temps entre chaque, mais d'affilée, ça fait un petit peu beaucoup. Voilà.
Moi, je trouve que, non, ouais. On va pas dire plus, je pense.
Non. Par contre, c'est un bel album. Ils ont sorti sur papier épais, un peu classe.
Ouais, en cartonné, c'est quand même, enfin, en gros carton, c'est quand même sympa. Mais
voilà. Donc c'est Megabra chez Fluide Glacial, un Glaciul, au prix de... Attention,
il faut que je retrouve la feuille que j'ai déjà donnée.
Tu l'as déjà donnée ? Ah ouais, t'avais été fort. 14
euros de mémoire, non ?
14 euros.
Voilà. Bloc 109, Ritter Germania, nous raconte l'histoire donc dans l'univers de Bloc 109, qui est cet univers où Hitler a été descendu.
Et où la guerre a... En fait, non, les États-Unis ont cessé d'exister, et il ne reste plus que l'Allemagne, d'un côté, qui a conquis toute l'Europe, et les Russes.
Oui. Les Rouges.
Donc on a déjà parlé longuement de Black Sunday. Cet album a un petit côté particulier, c'est le dernier dessiné par... je ne sais plus qui est le dessinateur et qui est le scénariste. Je crois que c'est Ronan Toulouat, le dessinateur. Est-ce que je dis une bêtise ?
Non.
Ouais. Ouh, on va réussir peut-être le Gilbert Proof.
Un bon point.
Un bon point. Mais non, il va trouver un truc, je le sens. Je vais encore avoir la honte.
Mais surtout, c'est qu'en plus, il va le chercher, là.
Là, pour le coup, là, on lui a lancé un défi, tu vois.
Déjà que d'habitude, ça lui pique aux yeux, enfin, ça lui pique aux oreilles. Là, il va être à l'affût, ça va être bizarre. Hein.
Donc, Ritter Germania, donc, c'est le dernier qui va dessiner. Pourquoi ? Parce qu'il va partir sur une autre série.
Chaos Team.
Toujours avec Vincent Brugès au scénario. Et c'est plutôt... laisse une petite tristesse de se dire qu'il va y avoir d'autres gens qui vont travailler sur cette série. Il avait quand même bien assuré. Il a surtout assuré beaucoup de BD en très peu de temps.
Et surtout, il a fait, moi, je trouve, une très, très grosse évolution au niveau graphique.
Ah ouais, on le voit évoluer au niveau graphique. Des reproches qu'on avait pu lui faire, d'ailleurs, je lui avais fait quand je l'avais eu en interview sur ces personnages qui sont pas bien différenciés les uns des autres. Une approche de la couleur parfois un petit peu trop radicale. Qui permettait pas de reconnaître qui était qui. Il a réussi à, en conservant son style, en perdant peut-être un peu en liberté. Hein.
Ça a perdu, je trouve, un petit peu en dynamisme, en pêche au niveau du dessin, mais il y a gagné énormément en clarté.
Ouais, en lisibilité. Ce bloc sur Ritter Germania nous raconte l'histoire du Ritter, qui est un personnage qui a été créé par le régime.
Par la propagande.
Qui est une sorte de super-héros fortement inspiré par Batman. Hein. D'ailleurs, ça se voit sur les troisièmes de couve.
Oui, mais c'est le super-héros qu'on a créé de toutes pièces. Pour le
voilà, sert les idées, machin chose. Et un acteur avait été choisi pour l'interpréter au cinéma.
Joachim Stadler.
Et il a pété un câble.
Un peu d'alcool, beaucoup d'alcool. Un peu de drogue, beaucoup de drogue. Et beaucoup de grosses têtes.
Pas tout de suite, il a pété le câble.
Et quand on a voulu le virer, ben, il n'a pas été d'accord.
Et pas donc bon. Il a vraiment enfilé son costume pour la vraie vie, dans la vraie vie, dans la vraie ville.
Et a commencé à faire le justicier masqué. Et on suit donc l'enquête des gens qui essayent de l'arrêter, tout en sachant pourquoi il fait ça. On voit qu'il ne travaille pas seul, mais on ne sait pas avec qui il travaille. On ne sait pas pour qui. On sent qu'il y a un objectif caché derrière, qu'il y a du complot dans tout ça. Et donc, on est un peu dans un aspect polar. Donc, pour le genre, on a mixé de l'Uchronie Godwin, parce que dans le genre, le point Godwin est franchi.
Ah oui, allègrement, oui.
Et moi, j'ai trouvé ça... Bon, graphiquement, on l'a dit. Hein. Classe. Mmh. C'est beau, on reconnaît bien... Enfin, belle évolution graphique.
Et au niveau du scénario, c'est très prenant. Le côté enquête policière, pour savoir qui mène la danse, etc., permet de garder le fil. Là où parfois, ça pourrait un petit peu être longué, quand on revient entre les différents personnages SS... ou de la Gestapo, etc. Là, le fait qu'il y ait une enquête derrière, en tout cas que nous on soit dans cette ambiance d'enquête, qu'il y ait tous ces personnages qui se tirent dans les pattes et on ne sait pas vraiment à qui on peut vraiment se fier dans cette histoire-là, ça entretient un suspense intéressant pour la lecture.
Et puis il y a un travail sur les voix off très millerien, je dirais. Ouais. Vraiment très millerien, c'est-à-dire qu'on suit deux voix off de deux personnages. Qui s'alterne et qui est très très bien trouvé, même si parfois on perd un peu de... C'est-à-dire qu'on sent que ça s'inscrit aussi dans l'intrigue générale Bloc 109, dans l'univers général, et parfois, moi, étant donné que je les ai lus il y a un peu longtemps, je sais plus trop, ah oui, lui, c'est qui déjà, qu'est-ce qu'il avait fait, on cherche à retrouver un peu ses marques, ce qui peut parfois être un peu difficile.
Moi, ça m'a pas beaucoup gêné, hein.
Ouais, non, moins que sur les précédents. Et puis voilà, je trouve, surtout sur le scénario, c'est vraiment l'espèce de partie d'échec qui est menée entre la Wehrmacht et la Gestapo, avec chacun essaye de placer ses pions, de contrer l'autre, de trouver des dossiers. Enfin, c'est une lutte d'influence, quoi. Avec le Ritter qui est là au milieu pour jouer, on ne sait pas trop quel rôle, finalement. Ça, moi, je trouve ça clôt bien, en tout cas,
le boulot
sur Bloc 109.
Mais la série continue.
La série continue, mais maintenant, On verra.
Quel genre vont-ils encore essayer parce qu'ils en ont fait des genres, hein, pour le coup, différents dans cet univers.
Mais surtout, disons que maintenant, il y a beaucoup de place, on va dire, dans les prémices qu'ils ont mis dans toutes les différentes histoires. Il y a beaucoup de place, on va dire, pour faire des suites sur beaucoup de domaines.
Oui.
Tant sur le premier bloc 109 que sur la suite d'un des personnages qu'on voyait dans Soleil de plomb.
Je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire un gros album Bloc 109 numéro 2 pour relancer, refaire le lien entre toutes les histoires, relancer la machine et repartir sur des histoires dans des genres différents derrière.
Bon, on verra.
Parce que c'est vrai que tu vois ce côté petite histoire, enfin j'aimerais bien que l'intrigue générale évolue en fait, l'univers évolue globalement, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Il pourrait évoluer parce que normalement, enfin, dans le premier Bloc 109, tu avais une vraie idée de la fin, enfin vraie idée d'un renouveau.
Voilà, maintenant ce renouveau, on va voir ce que ça peut donner.
Chez Aquileos pour la modique somme de 14,25€.
Merci Aquileos de mettre les prix en clair sur vos BD. La licorne, tome 4. Ah, j'ai beaucoup hésité à mettre cette BD-là en splash page parce que c'est une série qui s'achève pas mal.
En 4 tomes seulement.
Voilà, chez Delcourt.
Dessiné par...
Anthony Jean.
Il manquait Anthony. Et c'est Mathieu Gabella.
Gabella. Oh, bien, 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 beau travail. J'ai trouvé ça plutôt une bonne fin, quelque chose qu'on attendait aussi, parce que j'ai beaucoup aimé la série. Et puis de toute façon, c'est une série qui est très très belle. Mais que nous raconte ce tome 4 de La Licorne, Thio ? Attention, je vois les gros yeux.
Ouais, mais surtout, c'est qu'en fait, j'ai essayé de ne pas spoiler, quoi. C'est ça le plus dur. Donc je vais supposer que vous avez lu les trois précédents. Nous quittons Venise.
Voilà. Isaac, va lire ta BD à côté le temps qu'on explique ce qui s'est passé.
Nous quittons Venise.
Attends, moi je vous suis là.
Voilà. Mais tu l'as pas lu les précédents, c'est pour ça.
Donc la vermine n'a pas encore été répandue. Donc les corps, on va dire, n'ont pas encore changé.
Il faut peut-être essayer de remettre la base pour les gens. L'intrigue de base.
L'intrigue de base, c'est que le corps humain en fait était fait pour se soigner tout seul au départ, mais il va être empoisonné, il va être changé de manière irréversible par l'Église.
Oui, l'Église, ouais, entre guillemets. Enfin, par des gens qui veulent du pouvoir, qui sont sous couvert de l'Église.
Mais c'est pas vrai comme ça.
Ouais. Et en fait, c'est surtout quelque chose d'intéressant parce qu'on suit comment les principes. Antique de la médecine, qui étaient les humeurs, etc., était vrai, jusqu'à ce que des gens essayent de changer, de transformer le corps humain pour qu'il fonctionne comme le corps humain moderne qu'on le connaît avec la science moderne. En gros, le parti pris, c'est de dire que les scientifiques antiques avaient raison, et que ce n'est pas la science qui a évolué, mais c'est le corps humain qui a changé. Et l'histoire de la licorne, c'est ce moment-là où il y a ce grand changement qui se fait.
Enfin, qui se passe à la Renaissance et avec beaucoup de personnages historiques.
Voilà, de grands médecins.
Ambroise Paré, Paracels, qui est d'autre ? Nicolas Flanel. Mmh. J'en ai trois, il en manque.
Ouais, enfin, ils sont un paquet. Voilà.
Donc, il y a eu une première tentative de contamination donc, par l'Église, mais elle n'a pas fonctionné, pas entièrement. Et donc, il va y avoir une deuxième partie qui va être faite. Donc, ce sera le but de notre dernier tome. Et le combat final.
Tadam ! D'un point de vue narratif, cette bande dessinée a le défaut des derniers tomes de série.
J'ai trouvé ça un peu confus.
Un peu... verbeux. Ça m'a laissé une espèce d'astringence, tu vois, en bouche. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de textes, ils expliquent beaucoup de choses, ils récapitulent un peu ce qui s'est passé avant, ce qui est pas plus mal, parce que j'ai lu les précédents il y a longtemps.
Oui.
Mais ça boucle bien les choses. C'est vraiment, je pense que malheureusement, il faut avoir relu, je pense, les précédents pour pleinement apprécier ce tome 4.
Pour l'avoir fait, moi, ça m'a un peu déçu dans le sens. Enfin, la série se termine et j'en suis très content. J'ai pris beaucoup de plaisir à la lire, mais j'ai trouvé que la fin était un peu brouillonne, dans le sens où on a Moi, il y a un moment où j'ai dû revenir sur certaines pages pour avoir vraiment toute la compréhension, on va dire, des faits qui se passaient.
Bah, l'univers est assez riche, les concepts qui sont mis en place sont assez costauds. Il y a rebondissement sur rebondissement en plus dans ce tome.
Et surtout à la fin.
En fait, je suis méchant. Mais non, je suis gentil. Mais en fait, non. Mais en fait, oui. Mais en fait, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. On est un peu vite largué.
Petit peu vite perdu. Surtout en plus avec les différents personnages qui sont à différents endroits. Donc, ça devient vite complexe.
Ça part dans tous les sens. Mais je trouve que ça clôt bien l'histoire, malgré ce côté un peu brouillon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça met en place une mythologie moderne, je dirais, de créatures fantastiques. La mythologie qu'on connaît maintenant, il pourrait se faire des suites, en fait, je pense.
Oui, ouais.
En reprenant ce qu'ils ont mis en place. Même si faudrait qu'ils aient une approche qui soit aussi forte que pour cette tétralogie-là.
Je sais pas s'ils vont continuer, mais enfin, en tout cas, c'est...
Au niveau du dessin... Je pense qu'on va être d'accord.
Ouais.
C'est magnifique.
Toujours autant, ouais. Ça, pour le coup, graphiquement, je trouve, voilà, ça. Moi, ça me laisse toujours sur le cul, quoi.
C'est charnel, c'est mon mot. Il y a un travail sur la chair. Les créatures fantastiques qui sont représentées avec ces mélanges de chair, d'os, de plumes, etc., sont vraiment superbement faites. Un travail sur la couleur magnifique. J'ai l'impression que c'est encore plus beau que les premiers. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fantasmé. Je n'ai pas revu les premiers depuis.
Au niveau des couleurs, oui.
Ouais.
Au niveau du dessin, je trouve que c'est resté à l'identique. C'est-à-dire toujours aussi bien. Mais au niveau des couleurs, j'ai l'impression que pour moi, c'est moins... je veux dire criard, mais moins flash que dans les premiers, en fait. C'est beaucoup plus doux. Et ça donne, je trouve, encore plus de relief, finalement, au dessin.
Maintenant, c'est vrai que certains personnages sont typés un peu pareil. Donc, il y a plusieurs barbus aux cheveux blancs, tu vois. Ils sont
c'est normal, c'est tous les médecins.
Bah ouais.
À l'époque, si tu veux être un médecin, il faut être barbu et avoir une collerette.
Mais comme j'ai un peu perdu le fil, justement, de ne pas avoir relu les premiers, j'étais un petit peu paumé sur qui était qui. Et des scènes d'action épiques qui en jettent dans tous les sens, ce qui permet de faire des méga dessins pleines pages qui te piquent les yeux tellement c'est waouh, magnifique.
Par contre, moi juste une petite pause. À la page 56, vous aurez sans aucun doute une magnifique vision du Seigneur des Anneaux. Oui. Les deux tours. Je n'en dis pas plus.
Deux très très, oui, effectivement. C'est voilà. Mais voilà, un beau final, quelque chose d'assez joli. D'ailleurs, en troisième de couverture, il met un petit texte. Jusqu'ici, à chaque fois, il met un épilogue. Jusqu'ici, il mettait des explications.
Des explications sur les savoirs scientifiques de l'époque ou les arts à l'époque.
Pour nous mettre dans le contexte. Et là, il y a un petit épilogue justement qui ouvre de façon jolie. Parce qu'au final, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que les méchants sont pas forcément ceux qu'on croit, les gentils sont pas forcément ceux qu'on croit, enfin tout le monde a des choses à se reprocher.
Rien n'est clair en fait.
Rien n'est clair, alors que ça partait sur un côté très noir et blanc, quoi. C'était très manichéen au départ.
Bah t'avais les gentils, t'avais les méchants.
Mmh. Voilà.
Mais.
Enfin, une série qui s'achève en beauté. Je souhaite bonne chance aux auteurs pour continuer.
Pour les deux, hein, parce que j'espère que Mathieu Gabéa fera encore d'aussi bons scénars. Et j'espère surtout qu'Anthony Jean nous fera d'aussi belles BD. Quoi.
Donc c'est chez Delcourt au prix de 14,95€.
Moi qui n'ai lu aucun des tomes, en voyant ça, ça me donne extrêmement envie de me jeter dessus.
Tu peux.
C'est... Voilà. Rien qu'au premier coup d'œil, ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc ceux qui n'ont jamais ouvert l'un des albums, allez-y vite, courez dessus et faites-vous plaisir.
Surtout qu'il n'y a que 4 tomes et que donc on peut se faire plaisir assez facilement pour environ donc, 15 x 4, 45. 60€. 60€. Peut-être qu'ils vont faire une intégrale, peut-être.
Ouais, ça le mériterait, ça le vaudrait avec des couves magnifiques. Ils vont avoir du mal à trouver des couves encore plus magnifiques pour une intégrale.
Blotch! Page!
Gérard Holt, c'est avec nous. Gérard, un petit point sur les 12 travaux?
Eh bien, pour le moment, nous nous en sortons plutôt bien. Nous pouvons saluer le travail de toute l'équipe qui est avec nous, car nous avons réussi à ne pas faire de jeu de mots foireux sur les auteurs. Ti n'a pas encore lu un truc que j'ai pas lu, mais il l'a fait. Mais
ça ne saurait tarder, il est en train de revenir sur le peloton.
Publié dans les temps, ça me semble mal barré, mais nous pouvons encore tenter le coup. En ce qui concerne le placement de mots, nous avons eu un magnifique rhododendron. L'astringent, c'était pas trop mal, mais je me félicite moi-même. Voilà.
Jamais mieux servi que par soi-même, finalement.
Voilà. Isaac vient de rire à une de mes blagues, donc je viens de réussir un autre travail.
Je crois que c'est pas les deux qui devaient rire.
Ouais. Peut-être. Est bientôt au bout de la course pour la BD qu'il doit lire pendant l'enregistrement. Est-ce que vous avez remarqué qu'il est en train de lire ? Non.
Non, mais par contre, je vous le dis tout de suite, il lit aussi à l'envers, c'est-à-dire qu'il revient sur des pages précédentes. J'ai pas compris pourquoi.
Je ne pense pas avoir coupé Thio. Si, je t'ai coupé. J'ai foiré, je t'ai coupé.
Ouais, mais j'ai rien dit. Hein.
Putain, merde. Non,
mais ça, c'est dans la discussion orale. C'était pas une vraie coupure franche et nette.
Faudrait voir si justement les auditeurs arrivent à trouver à quel endroit tu m'as coupé.
Voilà, ça permettra d'avoir les commentaires.
Et ça permettra d'avoir les commentaires.
Nous n'avons pas fait de monologue depuis 3 minutes, je ne crois pas. Faudra peut-être vérifier. C'était pas évident.
Pourtant, je vous y ai poussé, j'ai rien dit.
Merci, c'est sympa de nous aider. Le prix des BD et les éditeurs.
Ouh, on est au taquet.
On avait toutes les BD, c'est bon. J'en attends le jugement de Xavier Guilbert.
Le verdict de Maître Capello.
Voilà. Eh bien, merci Gérard pour toutes ces précisions.
Et nous allons pouvoir parler d'Héraclès. Cette fantastique, magnifique, génialissime bande dessinée de Édouard Court. Chez Akileos, et oui, je savais qu'avec le titre, le nom de cet auteur, un des travaux allait devenir difficile.
Alors donc, c'est l'histoire donc d'Héraclès, hein.
Voilà.
Voilà.
Ça démange, hein. Ouh que ça démange. Ouh que ça démange.
Donc, Héraclès est une réécriture des 12 travaux d'Hercule, donc Héraclès en grec. Et donc, dans ce premier tome, je pense qu'il y en aura 2, 3, ça m'étonnerait quand même, parce qu'il a quand même bien avancé les travaux. Il en reste 4 à faire, hein, à la fin de celui-là. Il a bien avancé. Et donc, on va suivre ce personnage d'Héraclès qui est représenté de façon assez particulière, car c'est une grosse brute. Mais c'est une brutasse sans aucune finesse.
Oui.
Greux.
Oui.
Oui.
Un bon gros bourrin. Mais un bourrin qui a du cœur, et un bourrin qui est hanté par ses erreurs passées.
Oui.
Parce qu'apparemment, il aurait perdu sa famille.
Oui.
Si tu m'aides à pas faire de monologue, c'est ça.
Exactement.
C'est super sympa. C'est super sympa. Et les gens qu'il tue, le poursuivent. Et puis, il a tendance aussi à tuer des gens un peu sans faire exprès, en fait.
Ben, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que ça reste Hercule, quoi. Il a une force, comme dit l'adjectif herculéenne. C'est très compliqué pour lui, en fait, de faire quelque chose sans tout casser autour de lui. C'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Les gens autour de lui sont trop fragiles pour lui. Donc dès qu'il essaye de faire quelque chose, forcément, ça vire vite au pugilat, puisque la discussion, la parlementation n'est pas vraiment son point fort. Il résout tout par la force, quoi.
Puis quand il essaye...
Un petit exemple avec les centaures. Hein.
Oui, enfin, il le cherche un peu, les centaures aussi. Hein.
Oui, certes, mais bon, il aurait pu dire, ne serait-ce que prononcer un mot en disant « attendez » ou « je m'excuse », bref, « essayez de parlementer ». Non, là, il a trouvé. Enfin, dès qu'il a moyen, en fait, de se défouler, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment ça, il en profite pour faire sortir le trop plein d'énergie qu'il a en lui, quoi.
Donc, moi, j'ai trouvé que ça avait un côté, mais vraiment super bien raconté, parce qu'on on redécouvre, parce qu'en fait, les 12 travaux, je connais mieux les 12 travaux d'Astérix que ceux d'Hercule, en fait. Je ne les connais pas par cœur, hein, ceux d'Hercule. Il y en a certains, j'avais même complètement oublié qu'ils devaient faire ça. Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal, en fait, hein, ces travaux. À chaque fois, c'est la télé gueule à un truc. C'est souvent le même genre. Ils essayent de lui faire faire des trucs fins. Genre les écuries d'Ogias, en gros, ils l'envoient nettoyer les écuries d'Ogias rien que pour disant « Ah, tiens, tu vas voir, toi, tu te la pètes, t'es fier, va nettoyer les écuries d'Ogias. » Et il y arrive avec...
Avec brio.
Ouais, et bourrinage encore. Mais ce qui était vraiment très intéressant, c'est ces esprits qui le suivent, droit en particulier, et qui l'encouragent, le critiquent, lui disent quoi faire, quoi ne pas faire. Le personnage est vraiment entier, et il en devient très touchant et sympathique.
C'est ça, c'est un petit peu comme la voix de sa conscience qui lui parle, mais en réalité, c'est pas vraiment sa conscience.
C'est l'un des nombreux personnages qu'il a, une de ses victimes, et qui est pour le coup assez intéressant comme personnage, je trouve, parce que c'est comme une, il fonctionne comme une conscience, mais avec le raisonnement d'un être humain. Donc avec parfois de bons conseils, parfois de mauvais conseils. Il joue à la fois le rôle d'ange et de démon.
Oui, puis il n'a pas envie forcément qu'Héraclès s'en sorte, parce qu'il ne l'aime pas trop, hein, par principe. Vu qu'Héraclès l'a buté quand même.
Oui, mais enfin, Héraclès, c'est quand même surtout le jouet des rats. Donc le souci pour lui, c'est qu'il a aussi une grosse difficulté pour faire ce qu'il veut. C'est qu'il a quand même la femme de Zeus qui a décidé de, lui faire, de le faire chier. Quoi, donc,
Oui, j'ai appris en plus que son vrai nom, c'était Alcide. J'ignorais qu'Héraclès, c'était pas son vrai nom. Tu vois, j'ai découvert des points de mythologie que je connaissais pas.
Il faudrait faire du grec ancien pour savoir ce que veut dire Clès, puisqu'on peut supposer que Héraclès, voilà. Y a un truc en lien avec Héra.
Mmh. Bah, oui, c'est Héra, donc la femme de Zeus, qui était un petit peu pas super contente que son mari soit allé faire joujou à côté.
Là, je viens de tendre une magnifique perche à nos auditeurs pour qu'ils nous expliquent, lors d'un commentaire sur le site, la signification d'Héraclès.
Qui a fait grec en langue morte,
hein. Non. Chouduk, Isaac a fait grec.
Ah, Isaac, quand t'écoutes.
Chpulk frec.
Ah oui, c'est très grec. Thio, au niveau du scénario, qu'en as-tu pensé?
Ben, j'ai trouvé ça innovant, parce que ça nous change quand même bien l'image du Héraclès, du Hercule, quoi. T'es le mec, le beau gosse avec les cheveux longs, toujours bien rasé, toujours...
Celui de Disney?
Non, celui de la série, Hercule.
Oui.
Oh, ça va, j'aurais pu sortir Xena, je l'ai pas fait encore. Et donc voilà, ce Hercule-là qui était quand même, voilà, qui fait le Hercule propre, c'est le mec qui réfléchit et tout. Non, en fait, c'est juste un gros bourrin, quoi.
Un gros bourrin qui a eu pas de bol avec ses parents, quoi.
Il a pas eu de bol avec ses parents, il a pas eu de bol avec sa famille non plus.
Il a rien demandé, en fait. Hein.
Ben, c'est juste la vengeance des dieux, c'est un jouet. C'est un jouet qui se retrouve à perdre, en fait, toutes les personnes qu'il aime à cause des dieux.
Et c'est très bien compté. En tout cas, j'attends le tome 2.
Mais c'est très dynamique, très péchu.
Le dessin.
Sur le dessin. Et voilà, ça. En fait, on le commence et on est obligé d'aller au bout, quoi. Obligé d'aller au bout parce qu'il y a un rythme dans les cases, dans la narration, dans le dessin qui fait que, ben, on est toujours dans l'action, toujours dans le mouvement. Et la seule pause que j'ai marquée finalement sur le bouquin, moi, c'est la dernière case.
Oui.
La dernière case, je suis resté dessus. Et je pense que, enfin, c'est là où je me dis qu'il a vraiment fait un travail qui est excellent. Alors, c'est pas la dernière case. C'est la dernière case de l'avant-dernière page. Bah, je suis resté sur celle-là. Et
oui.
J'ai marqué une pause. Voilà. Et je pense que c'est exactement ce qu'il voulait. Et je trouve qu'il a vraiment fait un travail à ce niveau-là qui est vraiment excellent.
Bah, moi, j'ai, au niveau du dessin, en fait, cette bande dessinée m'a été conseillée par mon gentil vendeur qui m'a dit « Tu aimes Blin ?» J'ai fait « Ouais, j'ai déjà vu, mais j'ai jamais vraiment lu du Blin. Oh, tiens, prends ça !» J'ai feuilleté, j'ai fait « Ah bah, je dois aimer Blin, en fait. » Et je suis resté... Oui, non, mais parler du style graphique, ça ressemble à du Blin, apparemment. Enfin, pas du Blin la ville, Blin l'auteur. Merde, j'ai fait un jeu de mots sur le nom d'un auteur, mais pas un conchroniqué.
Bon, ça va, on te l'accorde.
Et donc, le dessin est... Il y a un travail graphique, il y a un travail sur les textures. Il y a un usage informatique, hein, derrière aussi, mais super intelligent le travail, l'usage des textures informatiques. Quand il va te montrer une grande plaine d'herbe, etc., il va utiliser une texture informatique qu'il aura bidouillée. Hein, il a fracassé pour avoir le rendu qu'il veut. Il y a un côté iconique aussi. Quand il joue sur le noir et blanc, qui font penser au dessin sur les vases, des trucs comme ça. Vraiment, de nombreux dessins peuvent être sortis du contexte et gardés tels quels et faire un beau poster, quoi.
Complètement. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Sur le choix des couleurs pour les personnages, notamment, on se retrouve très souvent avec des choix de couleurs que l'on retrouvait donc sur les vases grecques. Le choix des motifs, donc tu parlais d'icônes, on est exactement là-dedans. Les représentations des cheveux de beaucoup de personnages là sous forme d'écailles, on retrouvait également ça sur la statuaire grecque, etc. Il y a un vrai travail, l'air de rien, sur un dessin qui est très brut, très dynamique, avec
très
beaucoup
moderne.
De crayonnés, très moderne. Voilà, il y a beaucoup de traits dans tous les sens pour dire que ça bouge, que ça avance, etc. On retrouve beaucoup, beaucoup de petits symboles comme ça, de petites références. Pour qu'on soit vraiment ancré dans cette Grèce antique.
Alors un truc, je vais revenir un peu sur le scénario qui m'a aussi surpris, c'est qu'on connaît mal, je connaissais mal, je me suis rendu compte de l'histoire, c'est qu'en fait il y a beaucoup de travaux qui fait accompagner. Alors il n'y a pas le droit de se faire aider, mais il y a des gens qui sont avec lui, qui l'accompagnent et qui le guident et qui lui donnent des conseils. On découvre sa famille, ses cousins, ses potes, des gens avec qui il boit des coups, parce que ouais, c'est un bon buveur, hein, Héraclès. Et c'est vrai que ça donne un éclairage très sympathique sur cette légende. J'attends le tome 2 avec une grande impatience et j'espère que ça va être un grand succès. Oui. Parlons d'Edouard Court. Alors, Edouard Court est un illustrateur assez jeune. C'est son premier ouvrage qu'il a fait tout seul, déjà. En soi, c'est plutôt la classe. Et qui, en gros, est un designer graphique. Hein. Il a fait un superbe bac ES, sans doute pour rassurer ses parents, avant d'aller faire une école de graphisme. Il a fait des petits boulots d'illustration à gauche à droite, travaillé dans le web design sur des sites, travaillé un peu dans le jeu vidéo et la com. Il a travaillé sur du jeu de rôle aussi. Il a travaillé sur les dessins d'un jeu de rôle qui s'appelle Aventure dans le monde intérieur, qui a eu plusieurs éditions. Alors, j'ai pas vu les dessins dans ce jeu de rôle. J'ai jamais vu ce jeu de rôle, en fait. Je commençais déjà plus. c'est vers le moment où je commençais à plus trop m'y intéresser. Il faudra demander à Cobal ce qu'il en a pensé. Et je ne sais pas comment il a eu cette opportunité d'un coup de lancer son projet, d'y arriver. Et puis c'est pas n'importe quel projet, c'est un épais volume. Il y a je sais pas combien de pages. Enfin, c'est un gros bouquin, quoi. Et c'est 154 pages comme ça en premier bouquin, couleur, belle édition. Il a un site qui est vraiment très sympa où on peut voir un peu ses travaux d'illustration. Arrêtez de jouer avec les micros.
Laisse-moi pas. Eh ben non. Laisse-moi pas.
Arrêtez les enfants, hein. Fini de jouer. Donc un très très, on voit ses travaux d'illustration dans divers domaines. Il a travaillé pas mal sur la narration aussi en projet de fin d'études, des sortes de sites qui permettent de faire de la narration dynamique pour voir comment en étant spectateur, on peut influer sur la narration tout en faisant que quand même l'auteur soit toujours maître de ce que va voir le spectateur. Quelqu'un qui a pas mal réfléchi et qui a bien réfléchi.
Bien réfléchi, bien travaillé, parce que c'est quand même très intéressant. Enfin, c'est très intéressant dans la manière dont il l'a mené.
Allez voir son site, il a un petit blog où il a mis pas des tonnes et des tonnes d'articles, mais on peut voir pas mal d'illustrations, de croquis. Il y a un superbe dessin d'Héraclès, extrait d'Héraclès, mais pas fini.
Oui.
Arrêtez de faire ding-ding avec les verres. Regardez un peu ce superbe dessin d'Héraclès pas fini, comme ça en jette.
Avec l'hydre de Lerne.
Ouais.
Magnifique.
T'as envie de la voir, hein. Tu es bouche bée.
Oh. Bah, quelque part, ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi un simple dessin que l'on trouve sur l'une des pages de l'album là, peut être mis sous forme de tableau, encadré chez soi. Vraiment, c'est absolument...
Enfin, c'est pas un simple dessin, c'est une belle pleine page. Mais
oui,
bon,
oui, non, mais je dis un simple dessin, façon de parler. C'est pas un dessin prévu pour tableau, quoi. C'est... Prends un dessin sur n'importe quelle page et ça peut fonctionner, quoi.
En tout cas, pour un premier album, c'est un album qui a beaucoup de maturité, qui est très 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 réussi, qui m'a donné très envie d'y jeter un œil. Alors j'ai appris qu'il avait aussi fait d'autres, alors BD, mais apparemment je suis un petit éditeur indépendant, qui sont des bandes dessinées livres pop-up. C'est une bande dessinée avec du découpage au milieu pour les transformer en livres pop-up. Le concept m'a beaucoup amusé, faudra que je voie si j'arrive à trouver ça. Je suis conquis par le travail d'Edouard Court. Tous vous l'avez été parce que j'ai eu des retours de vous avant qu'on fasse l'émission, comme quoi, waouh!
Absolument.
On vous le recommande chaudement.
Il a perdu!
Rattrapage. On se rattrape. 18,30€ chez Aquileos. Voilà.
Ouf,
on s'est rattrapé.
Il a pas dit le prix.
Hors-sujet. Pour notre hors-sujet, nous aurions pu vous parler du côté magnifique de la Dordogne, un endroit fort sympathique, mais comme nous sommes des gros geeks, nous allons vous parler
où on mange bien aussi. Ouais. Où il y a plein de choses brûlées à voir.
Ouais.
Des choses qui datent de la préhistoire.
J'ai dit qu'on n'allait pas en parler, en fait.
Mais... Antiquité.
On va vous parler de cellules.
De cellules. Eh oui.
On va parler d'Osmos.
Un jeu qui est trop bien.
Un jeu mobile édité par Hemisphere Games qu'on trouve au prix de 2,50€ sur le Play Store pour Android et qu'on doit trouver à peu près au même prix, je pense, sur iPad et iPhone. Il y a une démo disponible si vous voulez voir ce que ça donne. Osmo, c'est un jeu très prenant et au concept très simple et très étrange.
Un jeu très addictif.
Nous dirigeons une cellule, enfin, des cellules, qui doivent bouffer des cellules plus petites et éviter les cellules plus grosses pour ne pas se faire bouffer. Dans le concept, ça a l'air vraiment bidon. Mais en fait, c'est super prenant.
C'est tout l'intérêt de...
Comme t'as voulu faire voler ton micro, quoi. Oh là là.
Donc, je disais, c'est tout l'intérêt, justement, des jeux tactiles. Parce que ce jeu-là ne peut exister que grâce à l'interface tactile.
Et pourtant, il existe aussi sur PC. Hein.
Mais bon, ça va être moisi.
Ça va être moisi, je suis d'accord.
Au niveau de, du game design des niveaux, ça ressemble à un Pac-Man ou...
Non, parce que c'est graphiquement très recherché et très joli. Je vais te montrer un peu les captures d'écran pour voir ce que tu vois, ce que ça peut donner.
Et donc du coup aussi, ce qui est très très bien dans le jeu, c'est la musique. On a une musique très très zen, ouais. très à la cool. Et pour autant, au bout d'un moment, il y a des niveaux, on n'est plus du tout cool quand on les fait. Hein.
Ah non,
malgré la musique, on n'est pas zen. Hein. On y a un moment où on est un peu tendu, parce que c'est pas facile en fait.
Parce qu'en fait, il faut savoir que ta cellule, pour la déplacer, tu dois cliquer autour d'elle, et c'est un endroit vers lequel tu vas éjecter de la matière, parce que ta cellule se déplace en éjectant de la matière.
Sauf que
plus tu éjectes de la matière,
plus tu deviens petit, et moins tu peux manger. Et sauf que, par exemple,
quand tu remanges, tu regrossis.
Mais sauf que, par exemple, quand tu veux freiner, parce que tu te rediriges trop rapidement vers quelqu'un qui est plus gros, pour freiner, il faut en fait que tu envoies de la matière celui qui est déjà plus, qui est plus gros que toi. Donc, du coup, qui, lui, va grossir.
Voilà. Ça peut devenir très stressant. Après, il y a d'autres cellules adverses particulières. Il y a celles qui fuient quand tu t'approches d'elles, celles qui essayent de t'attraper parce qu'elles sont bien méchantes.
Bref, c'est un jeu pour Mazo.
Voilà. Et il y a des niveaux avec, en plus, un travail sur la gravité.
Ouais, un petit peu comme un système solaire. Et ceux-là sont très, très durs, je trouve.
Ouais. Il y a un travail de gravité où, en gros, tu tournes autour parce que la gravité joue. C'est-à-dire que les grosses masses vont t'attirer. Et donc, tu tournes autour d'un truc.
Pourtant, dans la vraie vie, c'est pas ça. Hein.
Et tu dois sortir de ton orbite. C'était petit, ça. Tu dois sortir de ton orbite.
Ou gros.
Oui. Pour essayer de te rejoindre et pas sortir et pas te faire bouffer parce que d'un coup, t'atterris très, très rapidement. Oh. Donc,
j'étais hyper content.
T'étais super content, d'accord. Donc, Osmos, moi, un jeu auquel j'ai pris beaucoup de plaisir.
Moi, c'est un jeu que j'ai découvert sur la tablette de OneEye et je me suis régalé. Même que du coup, j'ai dû m'arrêter parce qu'en fait, j'avais déjà rattrapé la progression de OneEye qui m'a dit non, je voudrais finir le jeu avant toi.
Oui, normal. Bah, tu sais que je me retrouve pas avec tous les niveaux débloqués et fini avec un score.
Là, j'avais pas le droit de finir le jeu.
Voilà, mais maintenant tu peux.
Mais je l'ai fini.
Oui, tu peux. Non. Mais le jeu donc est bien prenant. En plus, on peut le trouver régulièrement. Il y a des promos. Il était présent dans le Humble Indie Bundle. Alors, le Humble Indie Bundle, c'est un principe que j'aime beaucoup. C'est des éditeurs indépendants qui s'associent pour proposer des jeux au prix que tu veux, sachant que les sous que tu vas mettre dans le jeu seront répartis entre les gens qui éditent le bundle, les éditeurs de jeux et des associations caritatives. Et tu répartis aussi comment tu veux répartir ça. Si tu veux tout donner aux éditions caritatives, tu peux. Si tu veux tout donner aux éditeurs, tu peux, etc. Tu mets le prix que tu veux et tu reçois les jeux. Et si tu dépasses la moyenne de ce qu'ont payé les gens...
Tu as des bonus.
Tu as un jeu gratos en plus. Et ils en rajoutent au fur et à mesure, en général, le temps que... C'est des offres limitées. Et ils ont sorti... Et le but, c'est que chaque jeu était disponible sur Windows, Mac et Linux. Des jeux sous Linux, tu vois.
C'est très sympa.
Et ils ont sorti une version Android où... Tu pouvais avoir la même chose, le jeu sous Android, Windows, Mac et Linux. Parce que tu as droit à toutes les versions du jeu, sans DRM. Ce qui est plutôt assez cool.
On dirait des gens qui ont compris les nouveaux mécanismes, ouais. Peut-être, de l'achat sur le net.
Ouais, ce qui fait que moi, je leur donne des sous à chaque fois quasiment qu'ils sortent un truc, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et... Il le disait aussi, ils auraient bien voulu le faire sur les iOS, mais sauf qu'ils ont un gros problème sous iOS, c'est qu'apparemment, à moins d'avoir un téléphone qui est dans l'illégalité totale, tu ne peux pas installer des applications qui ne viennent pas du store.
Non, il n'y a pas SDK.
Et ça leur pose problème.
iOS. Bah, franchement, quand tu payes un truc chez Apple, je comprends que tu puisses dire « i ». Hein.
Après ce petit troll, ce qui va provoquer des commentaires, bravo Isaac.
Yeah!
Nous pouvons maintenant clore cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne rentrée. Une bonne continuation si vous n'avez pas eu de vacances. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, sur iTunes. Sur iTunes, vous pouvez aussi laisser juste des étoiles si vous voulez. 5, c'est pas mal, ça nous fait toujours plaisir. À nous suivre sur Twitter, à passer faire un tour sur Facebook. Nous essayons d'être présents, réactifs. Et c'est bien cool. Et arrêtez de jouer avec ce micro, les enfants. J'ai l'impression d'être en salle de classe de maternelle, c'est pas possible quoi.
C'est bientôt la reprise.
C'est bientôt la reprise, il se prépare. Merci de nous avoir écoutés et à dans 15 jours, ciao.
Bye bye, à bientôt.
Au revoir.
Le au revoir en bois.
Tu arrêtes de monter et descendre le micro, s'il te plaît. Ceci n'est pas autre chose.
Oui, là, il va y. Bah, moi, j'ai le casque. Moi, j'ai les contrôles. Vous faites pas. Il y en a un autre de dispo.
Oh là là, mais t'arrêtes un peu. Bref, Gérard, c'est parti.